prochaine méga combi, c'est mercredi.
C'est mercredi.
Dans un instant, c'est les infos.
La prochaine méga combi, c'est mercredi.
C'est fini.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 28 octobre, il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir un site de Monsanto incendié.
Ensuite à Calais des rafles pour éloigner les migrants et migrantes.
Grève à la poste, on en a déjà parlé la semaine dernière et on continue ce soir.
Et encore une nouvelle loi antiterroriste.
Un petit tour par Air Cocaïne.
Ensuite, en Turquie, coup de force à l'approche des élections.
Le référendum au Congo, on a les chiffres depuis hier, c'est 92% de oui.
Aux États-Unis, un flic attaque une lycéenne.
Et puis après, ça sera, si tout va bien, ça sera 19h30. Et ça sera l'heure du grand retour de notre rubrique, le fil d'Ariane, avec des avocates qui viennent nous raconter le droit.
Et c'est quoi le thème de ce soir? Vous pouvez nous le dire.
C'est enfants et justice, mais première partie, parce qu'on aime bien faire des choses en plusieurs parties.
Et alors, je vais commencer par un petit quiz. Alors, je vais vous dire, je vais vous demander qui est-ce qui a dit ça hier dans le monde politique. Il faut poursuivre, continuer. J'accepte pleinement la critique sur le fait que ça n'est pas allé assez vite. Vous voyez ou pas?
Pas du tout.
Manuel Valls.
C'est ça, c'est notre premier ministre, Manuel Valls, qui était l'invité d'une émission spéciale organisée 10 ans après la mort de Ziad Ebouna et le début des émeutes en 2005. C'était organisé par le Bondi Blog et il a répondu ça à une journaliste qui l'interrogeait sur l'absence de mixité sociale dans les quartiers.
Mmh.
Alors, le géant américain des cultures transgéniques et de l'agrochimie a visiblement été la cible d'un incendie volontaire en France, et plus exactement à La Mézière, près de Rennes. Alors, il n'y a plus guère de doute sur l'origine volontaire de l'incendie, car après des recherches des sapeurs-pompiers sur place, il y a eu deux départs de feu simultanés. Bon, alors Monsanto, c'est un peu ceux qui rêvent de nous foutre des OGM dans nos assiettes tout en nous pourrissant la santé avec leur désherbant Roundup, le tout à gros coup de lobbying auprès des députés et de la communauté scientifique. Ça, c'était pour résumer pour ceux qui les situaient pas bien. Monsanto possédait 11 sites en France, maintenant il n'en reste plus que 10. Bon, c'est toujours 10 de trop. Le responsable du site nous a fait de belles déclarations. Là, je cite, Monsanto sert vraiment de bouc émissaire dans un débat truffé de raccourcis abusifs. Aujourd'hui, on voit où ça nous mène. Les gens qui sont dans l'ignorance par rapport à notre activité et notre supposée dangerosité. On a franchi un certain seuil, ce que nous déplorons beaucoup. Et il se défend de ne pas faire d'OGM sur le site. Sur ce site, là je cite, nous faisons de la sélection de maïs conventionnel, c'est-à-dire sans OGM pour le marché français et européen. Alors, on imagine que quand le responsable du site parle de raccourcis et de bouc émissaire, il trouve que on est un peu trop méchant avec sa petite entreprise, symbole, mais aussi leader sur le marché des OGM, et que si on pense que ce sont des salauds et qu'ils n'ont rien à foutre de ce qu'ils nous font bouffer, c'est qu'on est un peu des imbéciles. Bon alors, j'ai cherché et j'ai rien trouvé, en tout cas qui pouvait me faire penser le contraire. Le site en question est spécialisé dans le maïs ensilage, bon je sais pas vraiment ce que c'est, et mène des activités de recherche et développement dans le domaine de l'amélioration génétique. Bon, d'après le patron, donc il n'y a pas d'OGM sur le site, ce qui lui permet de traiter les personnes ayant mené cette action d'ignorants. Alors on va lui faire un tout petit cours de pratique militante, mais il s'agit bien de personnes ayant volontairement incendié Monsanto pour des motifs politiques légitimes. On peut imaginer que de une, les personnes ont choisi un endroit où il n'y avait pas de personnel la nuit pour ne pas faire de victimes. Que de deux, même si sur le site il n'y a pas d'OGM, il y a quand même de la recherche faite et pour et par Monsanto qui offre une agriculture dont personne ne veut. Ce qu'on leur reproche, ce n'est pas seulement les OGM, mais aussi leurs désherbants cancérigènes, leur vision de l'agroalimentaire, et donc de réduire en cendres ces recherches du groupe n'est pas une action ignorante, mais c'est plutôt malin, d'autant que ça a leur coûté pas mal de blé, sans mauvais jeu de mots.
Et à Calais, des rafles pour éloigner les migrants. Donc les autorités tentent de désengorger la jungle de Calais. C'est ce que j'ai entendu ce matin aux infos. Donc plutôt une sinistre annonce. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Ben, c'est que la semaine dernière, donc mercredi 21 octobre, il y avait Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, qui s'était rendu à Calais et qui avait annoncé des plans là pour reloger les demandeurs d'asile. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est commencé la nuit précédente sa venue. Des rafles avec envoi dans des centres de rétention aux quatre coins de France ont commencé et se poursuivent sur une base quasi quotidienne. Avec à chaque fois autour de 50 personnes par jour envoyées par avion de l'aérodrome de Marc à côté de Calais. Donc il y a eu des 46 personnes envoyées à Nîmes le 21 octobre, ainsi que 50 personnes hier à Nîmes aussi, 50 personnes au Ménil-Amelot, 50 personnes à Toulouse, 47 personnes à Metz, 50 personnes à Marseille, voilà, pour avoir une idée. Et ben, ce qui se passe ensuite, ben, les personnes sont placées en centre de rétention et donc ont 48 heures pour saisir le tribunal administratif. Et de ce que des militants ont pu qui suivent un peu les personnes, on sont arrivés à capter que les juges n'opèrent pas de la même façon, puisqu'il y a eu des libérations au bout de 5 jours au Ménil-Amelot. Du coup, il n'y a pas eu de continuation de 20 jours de rétention. Et par contre, à Nîmes, il y a eu appel d'un jugement pour maintenir les personnes en rétention. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est un énorme budget de transport forcé de la part du gouvernement pour des personnes qui désirent pour la plupart revenir à Calais pour mieux se barrer définitivement de ce pays de merde. Et donc voilà, ça fait plein de... ça fait plein de voilà de fric et plein de d'arrogance, de tristesse, de violence pour des personnes. Et sinon, il y a eu un nouveau meurtre et 3 personnes blessées fauchées par une voiture. Donc, comme chaque nuit, des groupes de personnes marchent le long de l'autoroute vers des lieux de passage. Et là, le choc a été suffisamment violent pour tuer l'une des personnes et 4 des 4 et blesser les 3 autres, dont un gravement. Le chauffeur a continué sa route, comme souvent. Et c'est le 20e mort à cette frontière depuis le début de l'année. Donc, ce qui peut montrer quand même l'effet direct des nouvelles barrières et dispositifs de sécurité installés depuis le printemps. Et ce week-end, donc à la fin du week-end, pendant le week-end, les flics ont bloqué la solidarité. C'est que chaque week-end, il y a quand même pas mal de gens qui vont soutenir à Calais en filant plein de choses, des denrées, mais en venant filer des coups de main au squat. Et là, les flics ont, en plus des contrôles d'identité habituels, ont carrément bloqué un camion qui venait filer de la bouffe. Du moins, ce qu'ils disent, c'est de l'aide humanitaire. Du coup, faut imaginer des trucs de premier secours, de premier besoin, voilà. Et donc là, ils ont juste tout bloqué.
Oui, alors bonjour. Donc moi, je viens vous parler de la grève à la Poste. Alors du coup, je vais en parler de l'intérieur parce que moi, je travaille à la Poste et que je suis gréviste. Et avant de continuer, je veux préciser que moi, je suis juste un gréviste et que du coup, mon avis, on n'a aucun représentant. Chacun se représente lui-même. C'est d'ailleurs ça qui est bien. Ça siffle là, non? Le son est bon, c'est bon? Oui, ok. Oui, donc voilà, donc je représente juste l'avis d'un gréviste et c'est tout. Alors je vais d'abord commencer par faire un petit bilan de ce qui s'est passé. En fait,
effectivement, tu peux changer de micro, je pense que c'est le micro qui a un souci.
D'accord. Voilà, oui, donc je vais commencer par faire un petit bilan. Donc nous, on a commencé notre grève sur le centre de Bellecour, Lyon RP, à partir du lundi 19 octobre, ce qui fait qu'on est en grève depuis... Bon, beaucoup de jours.
10 jours.
Voilà, 9 jours. Suite à notre mobilisation, il y a eu un préavis départemental qui a été déposé parce que nous, si on s'est mis en grève, c'est à cause d'une restructuration. Mais en fait, cette restructuration, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait quand même un bout de temps que les gens ne peuvent plus... leurs conditions de travail, de leur rapport avec la hiérarchie, du rythme... etc. Donc cette restructuration, en fait, c'était que les facteurs devaient distribuer des colis en plus de leur courrier, accompagnés de suppressions de postes, sans compter les suppressions de postes à Colipost qui avant étaient chargés de distribuer ces mêmes colis. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Il faut que je rappelle que je me lève tous les matins à 4h30 pour être sur le piquet de grève, donc il faut me pardonner. Alors oui, donc suite à cette mobilisation, comme je disais, il y a un préavis de grève départementale qui a été posé à partir d'hier. J'ai pas du tout le chiffre du nombre de grévistes qu'il y avait dans le département. Je sais qu'il y a au moins un camarade du 3e arrondissement qui est venu nous rejoindre sur le piquet de grève. Voilà, du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 9 jours? On n'a pas fait que rouiller sur le piquet. On l'a fait aussi, mais... on a fait un peu de diffage de tract, on est allé dans les autres bureaux de poste, on a fait marcher l'emploi chez les huissiers, puisque il faut à chaque fois qu'on est allé dans un autre bureau de poste, il y avait un huissier qui finissait par arriver pour on ne sait pas pourquoi. Tous les matins de grève, le patron venait, sortait sur le piquet et disait « Je suis ouvert à la négociation, je veux bien discuter avec vous, je suis accompagné d'un huissier ». Et je vous préviens qu'il est interdit de rentrer dans le centre quand on est gréviste, donc il y a l'huissier avec moi, attention, mais je suis ouvert pour la discussion. mais après négociation avec l'huissier, on a eu droit à l'asile sanitaire, donc utiliser les toilettes du centre, parce qu'il faut savoir qu'on reste quand même longtemps sur les piquets. Voilà, alors juste, je voulais dire aussi un petit mot des stratégies de la direction pour casser le mouvement. Donc ils ont par exemple distribué un petit déjeuner à l'intérieur dans les premiers jours de grève, c'est-à-dire pour les non-grévistes. Voilà, comme nous, on a des madeleines et du café, je pense qu'ils ont voulu jouer la concurrence là-dessus. Ils font tout comme nous en fait. Ils ont aussi distribué des tracts aux non-grévistes. Voilà, donc ils ont distribué des tracts pour dire qu'on était des salauds, qu'ils étaient ouverts avec la négociation, etc. Ils ont embauché un paquet d'intérimaires et il y a des cadres qui sont venus de toute... Ouais, il faut tout casser maintenant. Et il y a un paquet de cadres qui sont venus de toute la région pour faire le boulot des grévistes. Donc voilà, c'est un peu comme ça que agissait la direction. Alors nous, on a négocié plusieurs fois, on a accepté plusieurs fois d'être reçu par la direction et on a négocié. Enfin, négocier, c'est un bien grand mot. La dernière négociation, ça s'est passé ce matin. La seule chose, parce qu'il faut savoir que le patron, en gros, quand on lui pose une question, il nous parle de complètement autre chose. La première fois, moi, je me rappelle que je suis allé le voir. Il nous a demandé ce qu'on voulait. On lui a demandé ce que lui proposait comme amélioration. Et là, il s'est proposé de nous relire l'accord signé avec certains syndicats qui faisait 17 pages. Bon, alors, bon, autant dire qu'on a essayé de l'arrêter, mais c'est quand même pas facile avec quelqu'un qui est capable de parler pendant des heures sans jamais répondre à aucune de nos questions ni aucune de nos revendications. Ce matin, on a réussi à parler du dépassement horaire basé uniquement sur le volontariat, c'est-à-dire que les gens font plus que leurs heures de travail. Et dans ce cas-là, nous, on a dit qu'on n'était pas d'accord avec ça, et le chef a rappelé que c'était maintenant dans le code du travail, et que si le travail le nécessitait, on était en droit de demander aux agents de faire plus que leurs heures. Donc voilà, après on lui a répondu qu'il fallait peut-être pas nous la jouer sur le code du travail, parce que embaucher des intérimaires pour faire le travail des grévistes, embaucher des CDD pendant des années sans jamais les transformer en CDI, c'était pas trop non plus. C'était pas non plus ça, par contre, dans le code du travail. Bon, du coup, il a changé de sujet. Il a bien compris que c'était... Voilà, du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, ce qu'il disait aussi, c'est que, par exemple, oui, mais il fallait qu'on prenne en compte la conjoncture, que tout se passait comme ça ailleurs, et que c'était les choses qui se faisaient en ce moment, partout dans les autres postes, etc. Ce à quoi lui a été répondu, mais par exemple, en ce moment, c'est aussi la guerre en Syrie, j'ai pas envie que ce soit chez moi, par exemple. Donc c'est pour dire que les collègues étaient bien remontés, mais que, voilà, ça n'a encore abouti à rien ce matin. Il y avait pas mal de gens qui étaient déçus du fait que ça avait abouti à rien. Alors, il y a d'autres gens qui ont essayé de les remotiver en disant que des fois ils demandaient à leur frigo de leur servir une bière et qu'ils le faisaient pas, mais qu'après ils étaient pas déçus parce que on pouvait s'y attendre. C'est pareil avec le patron. Alors moi, je voulais finir un peu sur un truc de juste, en fait, moi, parler de mon ressenti en tant que gréviste, c'est que juste, en fait, je suis hyper content de la manière dont ça s'est passé. J'ai l'impression qu'on a réussi à s'organiser vraiment entre nous, même si c'était pas facile, mais on a quand même réussi à s'organiser entre nous de manière autonome, avec des décisions à chaque fois prises au consensus ou des fois avec des votes, avec les avis d'à peu près tout le monde, de tout le monde pris en compte, avec une liberté de décision sur plein de choses. Enfin, que c'était vraiment un hyper beau moment, et du coup, quoi qu'il se passe dans la suite, moi j'ai l'impression qu'on a gagné, en fait, et que on a gagné pour les liens que ça a créé entre nous, pour l'ambiance, pour l'impression que ça a donné. Par exemple, à moi, ça m'a donné une impression de force, et va pas trop falloir que le patron il me fasse chier dans les prochains jours. J'ai par exemple le petit sentiment de, des fois, quand je rentre dans une pièce ou dans un bus, je me dis que ça va pas être assez grand parce que j'ai toujours l'impression que je suis 30. Et du coup, voilà, ça c'est hyper agréable. J'ai un collègue qui m'a dit que ça faisait 32 ans qu'il était là et qu'il avait jamais vu une grève comme ça. Donc, pour l'ampleur et le... Ah voilà, bon, il faut que je finisse. Alors, je vais finir par ma petite phrase poétique. Que maintenant, le feu, il sera plus seulement dans le brasero sur le piquet et que ce feu, il brûlera encore longtemps. Voilà.
Ouhou.
Alors, oui, voilà, une nouvelle loi antiterroriste pointe son nez, oui, après l'attaque déjouée du Thalys, le gouvernement veut donc nous faire une de ces nouvelles lois. Alors, parlons antiterroriste, comprenez, augmenter le pouvoir policier et diminuer les libertés individuelles. Le but de la loi est donc de donner plus de pouvoir à la SUGE. La SUGE, c'est en gros les flics de la SNCF et de la RATP. Donc, si la loi passe, ces agents pourront, avec l'accord du passager, bien sûr, fouiller ses bagages et lui faire une palpation de sécurité. Bon, là, vous allez me dire, oui, bah, on n'aura qu'à tous refuser. Eh ben oui, bah, comme on vit en démocratie, ce sera votre droit, effectivement. Par contre, vous resterez sur le quai en regardant partir le train. Autre mesure, les flics et gendarmes avaient pour le moment pas le droit de fouiller les bagages des passagers, sauf s'ils avaient commis un délit. Avec cette loi, eh ben cette contrainte saute s'il y a une menace terroriste. Bon, alors ça c'est quand même sacrément une blague de la loi, parce que des flics qui fouillent et palpent des passagers dans un train ou un RER sans que la personne soit d'accord, ça se faisait quand même bien avant cette loi, et c'est même en faisant cette info que j'ai découvert qu'ils n'avaient pas le droit de le faire avant. Donc profitez avant que la loi passe pour leur refuser toute palpation dans un train ou un RER. Donc voilà, mais ce sera sous motif terroriste, hein, autant dire un concept assez large qu'ils n'auront pas trop de mal à justifier. Autre nouveauté, les agents de sécurité, donc SNCF et RATP, pourront désormais être en civil. Pour l'instant, ils n'avaient pas le droit, sauf mesure exceptionnelle. Et ce qui fait qu'ils auront le droit à d'être en civil et armé. Avant, ils avaient le droit d'être en civil mais pas armé. Maintenant, ou en tenue et armé. Maintenant, ils pourront être en civil et armé. Bon, bref, en gros, ça devient juste des flics, quoi. Ce qui était quand même déjà pas mal avant, en plus d'être frustré d'avoir raté les concours de la police, hein, quand même. Alors, et aussi, et ça c'est quand même pas une preuve de plus qu'avec les lois anti-terroristes, on peut tout faire passer derrière, dans le même texte, qui est donc censé lutter contre les gros méchants avec des grosses kalachnikovs qui vont faire plein de victimes dans les trains, qui en ont pas fait d'ailleurs au final, ils pondent un ou deux articles sur les fraudeurs. Donc c'est pas mal. Avec ce texte, la fraude dite d'habitude, qui est pénalement répréhensible et qui était jusqu'à présent de 10 amendes sur un an, et ben avec ce texte, si jamais il passe, et ben ce sera de 5 amendes sur un an, ce qui est quand même vraiment pas beaucoup quand on est fauché comme les blés. La loi sera examinée le 18 novembre et le gouvernement espère son adoption au printemps 2016. Merci Charlie.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'air cocaïne dont on entend parler depuis ce matin? Ça remonte à mars 2013. Hein, la police de la République dominicaine, renseignée notamment par les États-Unis, avait intercepté sur un aéroport dominicain un Falcon 50, c'est-à-dire un avion, avec 26 valises dans lesquelles il y avait 680 kilos de cocaïne. Dans cet avion, ils ont trouvé deux pilotes français, un passager français et un apporteur d'affaires, lui aussi français. Alors qu'est-ce que c'est qu'un apporteur d'affaires ? C'est une personne qui met en relation des individus souhaitant réaliser des opérations commerciales entre elles. Bon, les quatre Français ont d'abord effectué 15 mois de détention provisoire en République dominicaine et puis ils ont été libérés, ils ont comparu libres à leur procès. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison pour trafic international de cocaïne. Et puis ils ont fait appel, ils ont été remis en liberté et là ils étaient en liberté en attendant l'appel, mais ils avaient quand même pas trop le droit de quitter, enfin ils n'avaient pas le droit de quitter la République dominicaine. Alors pour bien comprendre la suite, il est sans doute pas anodin de savoir que ces gars, en tout cas les deux pilotes, c'était des pilotes de chasse, c'est-à-dire que c'était bien des militaires français. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Eh ben c'est qu'ils ont fait une petite balade sur un bateau touristique, donc ça a priori ils avaient le droit, et puis ils ont été approchés par un bateau plus gros qui les a récupérés. Ils auraient passé plusieurs jours en mer pour arriver à l'île de Saint-Martin où ils auraient retrouvé leur papier d'identité avant de décoller pour la France. Les deux militaires auraient bénéficié de l'aide de plusieurs copains. C'est BFM TV qui raconte l'histoire et qui mentionne d'anciens militaires, qui parlent de marins et qui parlent aussi d'anciens agents de la DGSE. Et peut-être même qu'un politique français aurait fait partie de l'équipe, sans plus de précision. Bien sûr, le ministère français des Affaires étrangères nie catégoriquement toute implication de la France dans leur retour. Bien sûr, ça n'empêche pas que... Pardon. Nous prenons acte du retour en France de nos deux compatriotes. Leur décision de s'enfuir est un acte individuel dans lequel l'État n'est nullement impliqué, a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça, parce que la France, donc le gouvernement français, etc., n'a rien à voir avec tout ça, que Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, a déclaré à la sortie du Conseil des ministres ce matin que la France n'extrade pas ses ressortissants. Alors bon, il dit ça un peu comme si la France n'extradait jamais ses ressortissants, comme si c'était une loi ou quelque chose comme ça. Ça semble quand même pas vraiment ça. Enfin, on, a priori, on a quelques exemples en tête quand même. Mais enfin, à y regarder de plus près, on dirait quand même que ça dépend de qui sont les ressortissants, de quoi ils sont accusés et surtout par quel pays. Là, en l'occurrence, la République dominicaine. C'est un pays qui est loin, qui est minus. La France a aucun intérêt à le ménager. Alors que, par contre, les accusés, eux, c'est des militaires que la France a le devoir de chérir. Bienvenue à la maison, les gars.
Alors, trois infos pour la Turquie. Il y a d'abord un coup de force à l'approche des élections. C'est la police qui a pris aujourd'hui en direct le contrôle de la régie de deux télévisions, donc Bugün TV et Canal Turc à Istanbul. Ce groupe de télé qui s'appelle Koza İpek a fait l'objet d'une mise sous tutelle controversée à la veille des législatives. Donc lundi, elle a été mise sous tutelle. Et son président, le président de ce groupe, Monsieur Gülen, est devenu l'ennemi public numéro un de Erdogan depuis le scandale de corruption qui a visé des proches de l'homme fort du pays et des membres de son gouvernement fin 2013. Et donc, devant les caméras, les forces de l'ordre ont pénétré dans le siège des deux chaînes en dispersant les salariés à coups de gaz lacrymo et de canons à eau. Et des policiers et un des nouveaux administrateurs du groupe nommé par la justice ont investi la régie des deux télé et ont pris le contrôle malgré l'opposition d'un de ses rédacteurs en chef. Donc voilà, c'est quoi l'ambiance à la veille des élections législatives anticipées. Et la deuxième info, c'est justement pour revenir un peu sur les élections législatives. Alors peut-être que vous en avez parlé déjà pas mal la semaine dernière, mais je voulais faire quand même un petit point parce qu'elles ont lieu donc dimanche, 1er novembre. C'est pour la seconde fois en 5 mois que les Turcs sont appelés à élire leurs députés dans le cadre de législatives. Anticipé, donc ce que je disais. Un scrutin au cours duquel le président Erdogan espère que son parti, donc le parti du développement et de la justice, l'AKP, récupère la majorité qu'il a perdue lors du précédent scrutin le 7 juin dernier. Donc lors de ces élections, l'AKP n'avait obtenu que 40% des voix, perdant sa majorité pour la première fois depuis 13 ans quand même, alors que le Parti démocratique des peuples, le HDP, avait récolté 13% des suffrages. Une première pour un parti pro-kurde qui pouvait par là même faire entrer des députés au Parlement. Donc l'AKP perdait sa majorité, Erdogan voyait son rêve d'hyper-présidence s'envoler. Donc ça, après l'échec de la formation d'un gouvernement de coalition avec le Parti Républicain du Peuple, le président Erdogan a décidé la tenue de nouvelles élections qui se font dans un contexte d'affrontement entre les forces turques et les militants kurdes. Il faut bien dire que depuis cet été, la guerre a repris. Plus la guerre en Syrie depuis 2011, donc ça fait vraiment un climat de tension méga fort. Donc c'est depuis fin juillet voilà que ça a repris. Alors je me suis un peu perdue. Bon, bref, voilà. En tout cas, c'est des choses qu'on a déjà beaucoup dites sur ce qui se passe depuis juillet au Rojava. Et donc oui, pour finir ma dernière info. Donc c'est donc la guerre contre les Kurdes, c'est que la Turquie a reconnu avoir effectué des bombardements non pas contre les positions de l'organisation État islamique mais contre celles des combattants kurdes de Syrie. Ankara affirme avoir procédé à ces frappes pour empêcher les milices kurdes syriennes de progresser à l'ouest de l'Euphrate. La Turquie s'inquiète en effet des succès militaires des Kurdes de Syrie et veut empêcher les milices du PYD d'étendre leur territoire dans le nord du pays. Je voulais le dire parce que c'est quand même un peu important ce truc-là de qu'ils le reconnaissent pour une fois et qu'ils le font pas et que la guerre elle est ouverte, clairement c'est pas pour dire que c'est bien ou mal, c'est comme ça, c'est que la guerre elle est plus assumée en tout cas de leur côté. Et donc pour rappel, il va y avoir aussi des manifs à Lyon et à Paris le dimanche là de mobilisation par rapport à ces élections du 1er novembre.
Alors, on avait parlé la semaine dernière de ce référendum au Congo-Brazzaville, référendum qui portait sur le changement de la constitution souhaité par, entre autres, par le président, changement de la constitution qui va lui permettre de se présenter encore une fois. Il faut se souvenir qu'il est au pouvoir depuis 30 ans, avec une toute petite interruption de 5 ans au milieu. Eh bien, on a les chiffres depuis hier, c'est 92% de oui. Et le plus surprenant, nous dit l'observateur Palga, ça restera le taux de participation qui, selon les sources officielles, caracole à 72%, un tour de magie électorale qui aura en tout cas le don de laisser plus d'un observateur perplexe. Et on se demande bien d'où ont bien pu sortir ces électeurs, sinon du chapeau du magicien Sassou Nguesso. La question reste en suspens, surtout quand on sait que ce dimanche, les bureaux de vote n'ont pas connu d'affluence et que les assesseurs ont passé leur temps à chasser les mouches. Alors voilà, bon, de toute façon, Sassou Nguesso est quand même un petit peu habitué de scores électoraux intéressants, dans la mesure où c'est lui qui avait été réélu en 2002 avec 89,4%, et en 2009, il avait seulement eu 78,6%. Alors, avant de laisser de terminer, de laisser la parole au fil d'Ariane, on va quand même faire un petit tour sur François Hollande et l'Élysée, qui avait dit avant le référendum, qui avait dit que nous respectons le choix toujours des autorités légitimes au Congo. Le président Sassou peut consulter son peuple, cela fait partie de son droit et le peuple doit répondre. Alors bien sûr, ça avait pas l'air malin dans la circonstance. Depuis, la France a fait un peu oui, non, on ne sait pas si on l'a vraiment dit. Et là, finalement, après les résultats, l'Élysée a déclaré cette fois-ci que les conditions dans lesquelles ce référendum a été préparé et organisé ne permettent pas d'en apprécier le résultat, notamment en termes de participation. Trop tard, nous dit l'observateur Palga, puisque de toute façon, le régime congolais a saisi le voile de légitimité ainsi tendu et s'en est drapé.
Et tu fais la dernière info que tu avais prévue ou pas ?
Non, on n'a pas vraiment le temps, vous avez qu'à écouter ailleurs, elle est partout de toute façon.
Alors voilà, le générique, le temps de tourner les micros de l'autre côté de la table.
Le tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal,
audience,
signification,
putatif,
amiable, juridiction, convocation,
assignation,
procureur,
amiable,
constitution,
juridiction,
signification,
incompétence,
signalation,
convocation,
relax,
abusif,
procureur,
usucapier,
flagrante,
institution,
amphithéotique,
procureur,
et juridiction,
assignation,
usucapier,
requête,
récitation,
constitution,
authentique,
incompétence,
exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc c'est le retour effectivement de l'émission du fil d'Ariane. On remercie à nouveau le Canu Info de nous inviter à leur émission. Pour un petit rappel, le fil d'Ariane, c'est donc une petite chronique animé par un collectif de 4 avocates du barreau de Lyon, qui tente d'apporter une approche pratique à des problèmes juridiques aux auditeurs. Ce soir, on va donc aborder le sujet de l'enfant et de la justice. On a souvent tendance à penser que lorsque l'enfant est impliqué dans une procédure judiciaire, on pense à la justice pénale des mineurs, à savoir si l'enfant a commis une infraction ou si l'enfant est victime d'une infraction. Ce thème fera l'objet d'une autre émission. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Le premier, l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque l'enfant intervient dans une procédure. Et dans un deuxième temps, on va aborder les cas où l'enfant est en danger le cas de l'assistance éducative.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, d'abord, pour vous présenter juste le cadre général sur la question de l'audition de l'enfant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un article dans le Code civil, en fait, qui pose un petit peu de façon donc, générale ce cadre, qui est article 388-1, pour être précise, et qui nous dit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Donc, c'est un extrait de cet article. Ce qui veut dire qu'il y a une double obligation pour les tribunaux. C'est tout d'abord de s'assurer que l'enfant a été informé de son droit d'être entendu et d'être assisté par un avocat. Et deuxièmement, que si l'enfant manifeste son intention d'être entendu, c'est qu'il a le droit d'être entendu donc, par le juge. Ce n'est pas une possibilité pour le juge, c'est une obligation. Ce qui est également intéressant de savoir, juste pour l'historique, c'est que cet article du Code civil est relativement récent, puisqu'il date de 1993, et il est venu en fait mettre en application une convention internationale, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit des droits donc, pour les enfants mineurs, et notamment celui d'exprimer librement son opinion pour tout enfant mineur capable de discernement, qui prévoit que les opinions de cet enfant donc, doivent être prises en considération par la justice ou par l'administration, et qui prévoit donc expressément que l'enfant qui demandera à être entendu devra l'être par la justice ou par l'administration dans toute matière qui le concerne. Donc c'est en application de cette convention internationale que le droit français donc, a prévu la possibilité pour un enfant d'être entendu par la justice.
Mais donc, quels sont les cas où il y a une audition de l'enfant ?
Donc, on l'a vu, c'est les cas où c'est une procédure qui concerne l'enfant. Essentiellement, en pratique, on rencontre ce cas-là dans les procédures de séparation faites des parents. Je vous renvoie pour cela à l'émission qu'on a faite il y a quelques mois déjà sur la séparation parentale. C'est essentiellement ça quand on parle de procédure qui concerne l'enfant. Mais alors, attention, quand on parle de procédure de séparation entre les parents, l'enfant, il n'est pas entendu non plus sur tous les aspects de la séparation de ses parents. Par exemple, quand il a ses parents qui divorcent et qui se chamaillent sur qui a fait quoi, qui a fauté dans l'histoire et pourquoi est-ce qu'on divorce, l'enfant, il n'a pas son mot à dire. Il ne doit pas être entendu par le juge pour dire est-ce que papa a trompé maman. Évidemment, c'est bien évidemment pas sa place. Donc, il n'est pas entendu là-dessus. Il n'est pas entendu non plus sur les aspects financiers de la séparation de ses parents. Ça veut dire que le juge ne va pas l'interroger sur la pension alimentaire que papa doit verser à maman ou que maman doit verser à papa. Donc c'est vraiment quand ça le concerne directement et que c'est pas qu'une question d'adulte. Mais il y a d'autres cas que la séparation des parents. Il y a aussi dans les procédures d'adoption, l'audition de l'enfant, elle est même obligatoire quand l'enfant a plus de 13 ans. On peut l'entendre aussi dans les procédures de changement de nom ou de prénom ou en matière de tutelle. Donc il y a quand même pas mal de procédures comme ça où l'enfant peut être entendu par le juge.
Et est-ce que tous les enfants peuvent être entendus ?
En fait, il n'y a pas vraiment d'âge qui est fixé par la loi, c'est une question d'âge. Il faut savoir, donc c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est la notion de discernement qui va dire quel enfant peut être entendu.
Et effectivement, alors pour fixer cette notion de discernement, il n'y a pas d'âge minimum fixé par la loi. C'est une notion donc qui est assez subjective, qui est appréciée au cas par les juges. Plusieurs critères sont pris en compte, alors il y a bien sûr l'âge. En pratique, pour donner une illustration, on considère qu'à partir de 9-10 ans, un enfant a un discernement en tout cas suffisant pour être entendu par le juge. Mais pour illustrer aussi cette subjectivité, c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et par exemple, en Allemagne, l'audition est obligatoire dans tous les cas pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans, quand même. Donc voilà, c'est vraiment du subjectif.
C'est pas trop ce qu'il peut dire à cet âge-là, mais en tout cas, il voilà. Entend.
En tout cas, il peut dire des choses.
Ça dépend.
Et donc l'âge, c'est pas le seul critère pour apprécier le discernement. Il y a également le critère de la maturité, du degré de compréhension, de la capacité pour l'enfant de s'exprimer. Donc voilà, on est vraiment dans une appréciation au cas par le juge d'une notion assez subjective qui est celle du discernement.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et qui peut demander l'audition de l'enfant ? Est-ce qu'il y a seulement les parents ou est-ce que d'autres personnes peuvent demander l'audition des enfants ?
Alors, tout d'abord, celui qui peut demander son audition, c'est l'enfant lui-même. On reviendra plus tard en pratique comment l'enfant fait pour demander au juge à être entendu. Il y a également les parties à la procédure, donc qui peuvent demander cette audition, sachant que concrètement, ça va souvent être les parents ou l'un des parents en cas de séparation. Et c'est une demande qui peut être faite à tout moment de la procédure et sans forme particulière, notamment quand c'est l'enfant qui demande. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est l'enfant donc, qui demande à être entendu, comme on disait tout à l'heure, le juge ne peut pas refuser. Il a l'obligation d'entendre l'enfant, sauf si cet enfant n'a pas de discernement, premier critère, donc on rejoint ce qu'on vient de dire. Ou alors également, si la procédure ne le concerne pas. C'est notamment le cas donc, qui a été exposé tout à l'heure, sur des questions purement financières, ou les motifs de la séparation de ses parents, c'est des choses qui ne concernent pas directement l'enfant. Donc là, le juge peut refuser de l'entendre, même si l'enfant demande à être entendu par le juge. Autre possibilité, donc c'est si les parties à la procédure et notamment les parents donc en pratique demandent cette audition. La logique de tout ça, c'est vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc c'est la considération primordiale des juges. Et donc par rapport à ce motif qui est au-dessus de tous les autres, le juge va refuser l'audition s'il estime que ça ne correspond pas à l'intérêt de l'enfant d'être entendu dans la procédure, ou alors s'il estime également que cette audition n'est pas nécessaire, donc ce que les parents demandent n'a pas d'utilité par rapport à la procédure en cours.
Et lorsque l'enfant va être entendu, comment il fait pratiquement? Parce que c'est pas si évident pour un enfant de pouvoir demander à être entendu.
Alors c'est effectivement important parce que c'est bien joli d'avoir des droits qui sont précisés dans le code civil et tout ça, mais il faut pouvoir les exercer. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est que dans tous les cas, l'enfant, pour qu'il sache qu'il y a une procédure qui le concerne, il faut déjà que ses parents lui en parlent, parce qu'évidemment, il n'est pas forcément au courant. Donc, une fois qu'il est au courant qu'il y a une procédure qui le concerne et qu'il veut, il veut aller voir le juge et expliquer quelle est son opinion, il y a deux possibilités. L'enfant, il peut écrire directement au juge. Alors, par exemple, dans les cas d'une séparation entre ses parents, il peut écrire directement au juge aux affaires familiales en disant qu'il veut être entendu sur cette procédure qui se passe entre ses parents. Il y a une autre possibilité, c'est qu'il peut demander à être entendu par l'intermédiaire d'un avocat. Alors, il faut savoir, on va parler du cas lyonnais parce que nous, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est qu'à Lyon, en fait, il y a un groupe d'avocats d'enfants, donc c'est des avocats spécialisés qui sont formés, qui ont passé des examens pour pouvoir être considérés comme avocats d'enfants et être sur une liste d'avocats d'enfants. Donc, l'enfant peut aller voir un avocat d'enfants. Généralement, en pratique, ce qui se passe, c'est que c'est un de ses parents. Généralement, c'est pas les deux, mais généralement, c'est un parent qui va l'amener chez un avocat d'enfant, ou alors c'est un parent qui va demander à ce qu'un avocat lui soit commis d'office. Et une fois que l'enfant a vu cet avocat, c'est l'avocat qui, au nom de l'enfant, va faire une demande d'audition, étant précisé que s'il y a vraiment une demande d'audition qui est faite, et c'est un point qui est quand même important, l'avocat qui intervient sera indemnisé au titre de l'aide juridictionnelle, quel que soit le niveau de vie de ses parents, en fait. Mais encore faut-il qu'il y ait vraiment une demande d'audition qui ait été faite. Donc c'est l'avocat qui peut faire cette demande d'audition, sachant là aussi, pour donner un peu des infos pratiques, en tout cas sur ce qui se passe à Lyon, il faut savoir qu'il y a une permanence juridique qui s'appelle mercredi, j'en parle à mon avocat, donc ça se tient le mercredi après-midi, c'est au palais de justice, c'est une permanence avec à la fois un avocat et un psychiatre, où déjà l'enfant il peut avoir un peu des infos juridiques sur quels sont ses droits et sur ce qu'il peut faire. Il faut savoir aussi qu'il y a une charte de l'audition de l'enfant à Lyon, avec des règles qui sont posées sur comment doit se passer cette audition, parce que c'est un cas un petit peu particulier, hein, c'est pas dans tous les jours qu'un enfant peut dire qu'il a un avocat à lui, parce que l'avocat est alors bien que celui de l'enfant, même si c'est un parent qui contacte l'avocat, l'avocat reste que l'avocat de l'enfant, ce qui veut dire en pratique que l'avocat déjà reçoit l'enfant seul, pas avec les parents. Donc le parent vient accompagner l'enfant au cabinet, mais l'avocat reçoit l'enfant tout seul. Il y a une règle, la règle du secret professionnel et de la confidentialité entre l'avocat et le client s'applique, bien évidemment, entre l'avocat et l'enfant. L'avocat va d'ailleurs expliquer lors de l'entretien quel est son rôle. Il va expliquer à l'enfant que son audition n'est pas obligatoire, parce que ce qu'on peut voir quand même parfois en pratique, c'est que c'est finalement un parent qui pousse un peu l'enfant à être entendu parce qu'il a envie que son enfant aille dire au juge qu'il veut vivre avec lui. Donc le rôle déjà de l'avocat de l'enfant, et c'est pour ça que c'est quand même important, on dit toujours on prêche un peu pour notre paroisse, mais c'est la réalité. Nous on est là aussi pour dire à l'enfant, en fait, peut-être que ton parent ou ton papa ou ta maman t'a amené là pour que tu demandes à être entendu, mais en fait tu peux demander à ne pas être entendu. Le rôle de l'avocat, c'est aussi d'expliquer à l'enfant comment va se passer son audition devant le juge, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est un peu angoissant à un enfant de lui dire on va aller au tribunal et tu vas rencontrer un juge. C'est quand même bien qu'il ait d'abord vu quelqu'un qui lui explique comment ça va se passer. Qui lui explique aussi ce que l'enfant va dire au juge, mais ça on va l'expliquer tout à l'heure, ça va être quand même communiqué à ses parents, même si quand il va aller devant le juge, ses parents ne seront pas là, ses parents seront quand même informés de ce qui aurait été dit. Et puis l'avocat de l'enfant lui explique également qu'il a le droit de changer d'avis, qu'il a le droit de dire un jour qu'il veut vivre avec l'un de ses parents, et qu'il a le droit de dire un jour qu'il veut être entendu, mais que finalement il ne veut plus être entendu. Donc voilà, c'est un peu ça qui se passe et qui va faire que derrière, il va y avoir éventuellement un courrier qui va être adressé par l'avocat au juge pour dire que l'enfant veut être entendu.
Donc en fait, si un enfant veut avoir un avocat, il aura forcément l'aide juridictionnelle. Je reviens à ce que tu disais au début. Ce qui veut dire que l'enfant, il ne débourse pas de frais pour avoir un avocat.
L'enfant, bien évidemment.
Si les enfants nous écoutent ce soir, sachez que vous pouvez avoir un avocat.
Ses parents non plus, mais que dans l'hypothèse où il y a vraiment une demande d'audition qui est faite. Ça veut dire que s'il y a un courrier qui est vraiment adressé au juge d'affaires familiales demandant l'audition, et même si l'enfant derrière dit qu'il veut finalement plus être entendu, ou que le juge dit, moi, peut-être vous, avocat, vous m'avez dit que l'enfant avait le discernement, moi je pense qu'il ne l'a pas et donc je ne l'entendrai pas. Dans ce cas-là, s'il y a au moins un courrier qui a été adressé, c'est l'aide juridictionnelle qui indemnise l'avocat, ce n'est pas les parents qui payent l'avocat, ce qui permet encore plus d'avoir cette distance entre les parents et l'avocat, même si dans tous les cas, même si c'est les parents qui rémunèrent l'avocat, il y a quand même, le client, ça reste quand même toujours l'enfant.
Fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Concrètement, comment se passe l'audition ?
Alors concrètement, l'enfant va recevoir une convocation du juge, donc avec une date et une heure pour se présenter. À cette audition, donc, il peut être assisté par un avocat ou par toute personne de son choix. Cette audition, elle est faite soit par le juge directement, mais le juge, il a aussi la possibilité de désigner une personne pour entendre l'enfant. Par exemple, en pratique, ça va être un médiateur familial ou un enquêteur, voilà, quelqu'un que le juge va désigner donc spécialement pour ça. Alors, le déroulement concret de l'audition sur le moment, le juge va poser des questions, bien sûr des questions adaptées à l'âge et donc au degré de discernement et de maturité de l'enfant. S'il y a un avocat qui est présent donc au moment de l'audition, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas lui qui prend la parole, c'est bien l'enfant qui va parler, qui va répondre aux questions. Et l'avocat, il est uniquement là pour guider, soutenir un peu l'enfant durant cette audition, éventuellement compléter les propos si des choses ont pu être dites et si l'avocat sait que l'enfant veut aborder certains points avec le juge, mais véritablement, la personne entendue, c'est bien l'enfant. Et l'avocat n'est présent que pour l'assister, l'accompagner durant ce moment-là, mais pas pour parler à la place de l'enfant. À l'issue de l'audition, donc, le juge va rédiger un procès-verbal avec ce que l'enfant aura expliqué au juge, qui va être relu donc, par l'avocat, puis par l'enfant aussi, et puis signé par l'enfant lui-même. Et ce procès-verbal, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un document qui est remis soit aux avocats des parents, soit que les parents peuvent venir consulter directement au greffe du tribunal. Donc, ce qui veut dire qu'au final, les parents, même si c'est indirectement, auront accès au contenu, en tout cas au résumé de ce qui a pu être dit durant l'audition par l'enfant au juge.
Et quelles sont les conséquences de cette audition dans la prise de décision du juge ?
Alors là, on va casser un peu une idée reçue, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des gens qui nous disent à quel âge mon enfant peut aller voir le juge et décider de ce qu'il veut ? C'est pas tout à fait ça. C'est pas parce qu'un enfant est entendu que finalement c'est lui qui va prendre la décision. C'est important de le dire, c'est important de le dire notamment aux enfants, parce qu'il faut aussi les protéger un peu, qu'ils aient pas l'impression que c'est eux qui vont décider et que du coup ils se mettent un peu en porte-à-faux par rapport à un de leurs parents. On parle toujours de cet exemple de la séparation parentale, parce que c'est le problème, c'est là que ça se pose le plus souvent. Donc en fait, le juge entend l'enfant, mais c'est juste un élément de plus dans l'appréciation du dossier, mais il ne va pas forcément suivre l'avis de l'enfant, parce que le juge, il juge l'intérêt de l'enfant, et parfois les enfants, ils peuvent exprimer un avis qui ne correspond pas forcément à leur intérêt. Notamment, on peut voir dans des cas où il y a ce qu'on appelle le conflit de loyauté entre deux parents, et où finalement, un enfant va dire je veux aller chez, par exemple, chez mon père ou chez ma mère, et
et en fait c'est pas vraiment ce qu'il veut, mais c'est, il veut faire plaisir à son parent, ou il sait que le parent chez qui il dit qu'il veut aller, ben, va pas bien et qu'il veut quelque part le protéger. Donc le juge, ben, prend pas de décision qui est forcément conforme à ce que lui a dit l'enfant. C'est juste un élément de plus, mais voilà, c'est quand même important que l'enfant sache, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'en tout cas ce qu'il aura dit au juge, la conséquence c'est que en tout cas ses deux parents seront au courant de ce qu'il aura dit au juge, et enfin, vaut mieux qu'il le sache avant, parce que ça peut être pas évident de dire un certain nombre de choses sur ses parents en pensant que derrière ce sera pas su.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
On va parler maintenant de l'assistance éducative. Alors, qu'est-ce que l'assistance éducative ? C'est une procédure qui est mise en place lorsqu'un enfant est en danger et que les parents ont besoin d'aide dans le cadre de l'éducation de l'enfant, de l'entretien de l'enfant. Il peut y avoir une procédure administrative, c'est-à-dire que c'est l'administration qui va demander à ce que soit mis en place une assistance éducative, par exemple la Maison du Rhône. Voilà, souvent c'est par les éducateurs qui font appel à l'administration, qui imposent une assistance éducative, mais souvent, et lorsque c'est un peu plus grave, ça va être une procédure judiciaire d'assistance éducative, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer ce soir. Donc, on a indiqué qu'il faut que l'enfant soit en danger, mais qu'est-ce que recouvre cette notion de danger ?
Alors, c'est une notion qui est super large. On cite de temps en temps le code civil, ça paraît un peu lourd, mais c'est quand même bien de préciser c'est quoi la notion de danger dans le code civil, parce que enfin, c'est vraiment très très large, puisque ce qui est précisé, c'est que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, à ce moment-là, il peut y avoir assistance éducative. Donc la notion de danger, c'est vraiment quelque chose de très très large, et on se rend compte qu'on peut, des parents peuvent très rapidement se retrouver devant le juge pour enfants. Donc pour donner quand même des exemples pratiques, vous pouvez avoir... danger pour un enfant quand il y a par exemple ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un conflit de loyauté dans la séparation de ses parents. Ça veut dire quand la séparation de ses parents ne se passe pas bien et qu'il est un peu pris entre les deux, ben, on peut considérer qu'il est en danger et on peut se retrouver devant le juge pour enfants. Il peut y avoir aussi assistance éducative quand un parent ou ses deux parents ont des problèmes psychiatriques, psychologiques. Donc quelque part c'est pas la faute du parent, hein, c'est comme ça, c'est la vie, le parent est malade et il peut pas s'occuper correctement de son enfant, il peut du coup y avoir assistance éducative.
Et donc comment on se retrouve devant le juge concrètement, comment l'enfant il se retrouve à rencontrer le juge?
Alors dans ce cadre-là, le juge des enfants, il peut être sollicité par plusieurs biais, soit par les parents directement, donc qui vont contacter directement le juge, soit par l'enfant lui-même, ce qui est également une possibilité, soit peut-être plus souvent par le service auquel l'enfant est confié, et enfin par le procureur de la République, ou par le juge lui-même qui peut toujours s'auto-saisir. Et c'est vrai que ça reste un cas assez théorique, dans le sens où le juge n'est pas au courant de tout ce qui se passe sur le territoire sur lequel il est censé juger et assurer la protection des enfants. S'agissant de la saisine par le procureur de la République, il y a souvent à l'origine derrière ce qu'on appelle un signalement, dont on entend souvent parler. Donc c'est l'école, par exemple, qui va alerter le procureur de la République, ou un assistant social, ou quelqu'un du milieu éducatif, voilà, qui va constater qu'il y a des difficultés chez l'enfant et les faire remonter. Donc c'est des informations qui sont données d'abord au procureur de la République, qui à son tour donc va informer le juge pour enfants en lui demandant d'intervenir, donc en le sollicitant judiciairement pour qu'il intervienne comme juge. À ce moment-là, donc le juge saisi va convoquer toutes les parties pour une audience, donc c'est les parents, l'enfant et le service si l'enfant est confié. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette audience, elle peut venir assez rapidement, puisque le délai minimum prévu par le code est seulement de 8 jours. Donc on peut assez rapidement en fait se retrouver devant le juge pour enfants.
Et comment se passe cette audience ?
Alors l'audience, bah déjà il faut savoir quand même que celle se passe en ce qu'on appelle en chambre du conseil, ça veut dire à huis clos. Si je t'en prie. Pardon, j'ai des problèmes de gestion de micro. Donc ça se passe à huis clos.
Non, on va pas y arriver. Ça se passe à huis clos, c'est important de le savoir, que les gens n'aient pas l'impression qu'ils vont se retrouver dans une salle d'audience avec tout un public, alors qu'on va quand même aborder des problèmes compliqués, des choses un peu intimes et qui relèvent de la vie privée.
Du coup, bah, y a les parties qui ont été convoquées qui sont présentes, les parents, l'enfant, les services éducatifs qui sont là. Il peut y avoir des avocats aussi, les parents, et c'est important à chaque fois de le rappeler, les parents ont le droit d'être assistés d'un avocat, et l'enfant aussi a le droit d'être assisté d'un avocat. Ce qui paraît important à la fois, bah, parce que les enjeux quand même de ce type d'audience sont très importants, donc c'est important que les différentes parties soient bien défendues. Et puis c'est important aussi par rapport à l'accès au dossier, parce qu'il faut savoir que quand il y a une procédure d'assistance éducative, ça veut dire qu'il y a un dossier qui est présenté au juge pour enfants, avec notamment des rapports qui ont pu être faits si la procédure d'assistance éducative date déjà de quelques temps, des rapports qui ont pu être faits par des services éducatifs, par des assistants sociaux, donc c'est quand même bien de savoir ce qu'il y a dedans. Alors c'est prévu dans le code de procédure civile que les parents et l'enfant puissent, sous certaines conditions, je ne vais pas rentrer dans les détails, puissent consulter ce dossier-là. Mais en pratique, ça ne se fait pas forcément beaucoup. Il y a des parties du dossier qui peuvent être écartées. Et puis, donc voilà, quand il y a un avocat qui intervient, c'est vrai que l'avocat, du coup, peut demander une copie du dossier qu'il ne peut pas adresser aux parties, parce que ça ne peut pas circuler comme ça. Mais en tout cas, ça permet d'accéder au dossier peut-être un petit peu plus facilement. Voilà, donc l'audience après, c'est assez informel. Le juge pour enfants pose des questions un peu à tout le monde, aux parents, à l'enfant aussi. Alors l'enfant parfois il est là pendant toute l'audience, ce qui n'est pas forcément facile hein, quand il est au milieu de ses parents et qu'il y a des choses quand même difficiles qui sont dites. Parfois bah, il est là qu'une partie de l'audience, c'est un peu le juge pour enfants qui décide. Donc tout le monde va un peu donner son point de vue sur la situation. Et puis, il peut y avoir éventuellement plaidoirie des avocats. Et très souvent, le juge pour enfants bah, donne sa décision tout de suite à l'issue de l'audience, au vu de tout ce qui a été dit.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et quelles sont les mesures que peut prendre le juge à l'issue de cette audience ?
Alors, il y a plusieurs degrés dans les mesures que peut prendre le juge, et ça va un peu crescendo. Le plus bas, on va dire, c'est les mesures d'investigation, c'est-à-dire que le juge va vouloir en savoir un peu plus sur les conditions de vie de l'enfant, pour pouvoir mieux cerner ben, sa personnalité à lui déjà, son parcours, l'environnement de l'enfant, donc familial, et puis également l'entourage au sens plus large. Donc vraiment, le but de cette mesure, c'est pour le juge de recueillir des informations pour pouvoir ensuite prendre une décision donc adaptée à la situation. Et c'est une mesure qui va faire intervenir différents milieux, notamment éducateurs, assistants sociaux, psychologues également, donc peuvent intervenir dans le cadre de ces mesures d'investigation. Il y a une deuxième possibilité pour le juge, c'est de prononcer ce qu'on appelle une assistance éducative en milieu ouvert, donc AEMO. Voilà,
c'est plein de sujets, les procédures d'assistance éducative.
Donc l'assistance éducative en milieu ouvert, c'est la situation où on a un travailleur social éducateur qui va intervenir pour une durée donc, fixée par le juge, qui peut aller de 6 mois à 2 ans et qui peut être renouvelée dans le temps, avec un rapport annuel qui est rendu donc, par cette personne qui intervient. Et le but, donc, c'est que cette personne désignée va rencontrer la famille, mais également plus largement aussi tout l'entourage de l'enfant, notamment l'école, les médecins, enfin voilà, vraiment tout ce qui entoure l'enfant et la problématique rencontrée par la famille ou par l'enfant directement. Et l'idée derrière cette mesure-là, c'est d'accompagner l'enfant tout d'abord, et puis également, dans certains cas, d'apporter une aide et un soutien à la famille ou à l'entourage suite à une difficulté ponctuelle ou une difficulté plus générale. Et puis, en dernier recours, mais c'est vraiment le dernier recours, ça peut être une mesure de placement de l'enfant, soit auprès d'un autre membre de la famille, soit auprès d'un tiers à la famille, mais quelqu'un de confiance pour l'enfant, ou alors au service de protection de l'enfance. Le placement, donc, c'est vraiment la solution ultime, c'est le dernier recours. C'est une mesure qui ne peut pas excéder deux ans, même si elle peut être renouvelée, sauf cas donc très particulier. En pratique, c'est des placements qui sont souvent mis en place pour une durée d'une année, avec une audience relais, donc pour faire le point et pour que le juge puisse décider voilà, si ce placement est maintenu ou alors si on peut voilà, passer à une autre mesure pour l'enfant.
Mais il ne faut pas avoir peur d'être placé à chaque fois qu'on va voir le juge pour enfant.
Non, c'est vraiment le dernier recours en pratique. Après, on peut voir aussi des situations où ça va quand même très très vite. Hein. Un enfant peut être placé même tout petit, même à la naissance. Il y a des cas quand une maman qui a, comme je disais tout à l'heure, qui a des problèmes pour le coup d'ordre psychiatrique et qui sont des problèmes qui du coup sont détectés à la maternité. On voit le cas d'enfants où à peine dès la naissance ils sont placés très très rapidement, mais en règle générale quand même c'est vraiment le dernier recours, parce que c'est ce qui est vraiment précisé dans les textes. L'idée c'est quand même de maintenir au maximum l'enfant dans son environnement habituel, parce que c'est évidemment pas la solution, parce que c'est l'assistance éducative. L'assistance éducative, l'idée c'est pas de punir les parents, c'est de les aider à un moment donné, on dit les aider dans leur fonction parentale. En tout cas, sur le papier, dans les principes, c'est ça. Après, en pratique, parfois, ça peut être un petit peu plus compliqué.
Et quels sont les droits de l'enfant dans cette procédure ?
Alors du coup, la particularité de, en tout cas, la place de l'enfant dans cette procédure, c'est qu'il est vraiment parti à la procédure, ce qui n'est pas le cas. Tout à l'heure, on a parlé de l'audition de l'enfant. Là, c'est vraiment un cas où, alors qu'il est mineur, il est vraiment parti à la procédure. Ce qui fait que, notamment, il peut faire appel de la décision du juge pour enfant. Donc c'est un cas assez unique, on va dire. Il a le droit, il est entendu par le juge. On l'expliquait tout à l'heure sur le déroulement de l'audience. Bah, il se retrouve lui aussi devant le juge à être entendu, à expliquer ce qui se passe. Dans ce cas-là, il a droit à être assisté par un avocat. Il faut savoir aussi que il n'y a pas juste l'audience devant le juge pour enfants. Après, il y a tout le reste. Quand le juge a, par exemple, mis en place, comme ça a été expliqué tout à l'heure, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ou une mesure d'investigation, ça veut dire qu'il va y avoir des éducateurs, des assistants sociaux qui vont aller voir les parents, mais qui vont aussi aller voir l'enfant, qui vont lui poser des questions sur sa vie avec ses parents, comment ça se passe, etc.
Et on imagine que dans ces cas-là, les parents, ils doivent se sentir assez écartés, exclus de l'éducation de leur enfant. Et donc, quelle est leur place, quel est leur droit ?
Alors, on a beaucoup parlé de la place de l'enfant, les droits de l'enfant dans tout ça. Mais évidemment, les parents, ils ont toujours des droits. Je vous le disais tout à l'heure, on parle d'assistance éducative. Ça veut dire que l'idée, c'est d'aider les parents, peut-être dans un moment difficile, à s'occuper de leur enfant et à faire que ça se passe mieux. Mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est que les parents, même si l'enfant est placé, même s'il y a une mesure d'assistance éducative avec un juge pour enfants, les parents, ils ont toujours tous les attributs d'autorité parentale. Enfin, ça, c'est en tout cas le principe. Après, il peut y avoir des exceptions dans certains cas, notamment quand l'enfant est placé et quand les personnes chez qui l'enfant est placé ont besoin de prendre des décisions et que le parent ne les prend pas. À ce moment-là, on peut déléguer un peu, c'est pas le bon terme, mais on peut en gros un peu déléguer l'autorité parentale à ces personnes-là. Mais sinon, en principe, les parents, ils ont quand même toujours les attributs d'autorité parentale. Ils ont notamment, et c'est très important, un droit de visite et d'hébergement si l'enfant est placé, qui doit être fixé. Si un enfant est placé, ça ne veut pas dire, bien au contraire, une rupture des liens entre le parent et l'enfant. Et c'est pour ça que les parents, il faut qu'ils se défendent aussi dans ces procédures-là. L'enfant doit être défendu, les parents aussi, parce qu'il ne faut, pas que les parents perdent leur place dans la vie de leur enfant, parce que le but, c'est que quand même, au final, c'est le but, et puis c'est comme ça, c'est que ces parents-là sont les parents de leur enfant. Il faut quand même toujours qu'il y ait un lien, parce que les enfants ne pourront pas se passer d'eux.
Voilà, donc ça c'était l'émission sur enfants et justice, enfants entendus, enfants en danger. Je vois qu'il me reste quasiment pas de temps. Normalement, il y a une petite chronique, le mot qu'on comprend rien. Ce soir, on va se dispenser. On voulait juste faire un tout petit mot, il y a un tout petit mot sur la grève des avocats. Oui, il n'y a pas que la grève de la Poste. Malheureusement, il y a aussi la grève des avocats. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc, depuis 3 semaines, le bâtonnier de l'ordre des avocats est en grève. Depuis le 22 octobre, soit depuis presque 10 jours, tous les avocats du barreau de Lyon et de très nombreux barreaux en France sont en grève et font une grève totale et illimitée, et qui concerne notamment le contentieux de la liberté. On se manifeste contre la réforme de l'aide juridictionnelle proposée par le gouvernement. Une réforme qui en fait va tuer l'aide juridictionnelle, car qui baisse l'indemnité, et je ne parle pas de rétribution, je ne parle pas de salaire, vraiment je parle de cette indemnisation qui est déjà très peu élevée et que le gouvernement va encore baisser de 20 à 60%, ce qui va mettre un terme en fait à l'aide juridictionnelle, parce que les avocats ne pourront plus prendre en charge ces dossiers. Donc il y a un gros mouvement en France. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué aussi pour les avocats, parce que parce qu'on peut pas défendre, on peut plus défendre en ce moment nos clients devant les juridictions. C'est pour pouvoir continuer à les à les représenter, à les défendre par la suite. Et donc c'est pour ça que nous faisons grève depuis maintenant 10 jours. Voilà.
Bravo. Merci.
Et bonne soirée.
À la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Salut.